franceinter.fr.
Merci Antoine Gignot.
France 3. Le go final est donné. Seuls les très proches du président savent que Ben Laden passe sa dernière nuit dans cette maison.
Un an après sa mort, plongé au cœur de la traque de Ben Laden avec un doc rare et inédit, suivi d'une enquête sur le 11 septembre. Histoire immédiate, Samuel Etienne présente une soirée spéciale Al-Qaïda, suivi d'un débat, ce soir à 20h35 sur France 3.
France Inter, partenaire du Festival des Eurockéennes de Belfort, les 29, 30 juin et 1er juillet. Le Festival des Eurockéennes, 3 jours de musique en plein air. La presqu'île du Malsaucy accueillera un festival d'exception au travers d'une soixantaine de concerts avec The Cure, Lana Del Rey, Justice, Jack White, Alabama Shakes et beaucoup d'autres. Renseignements sur franceinter.fr.
Il est exactement 13h30 sur France Inter. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Claire Servageant.
Au programme de la marche de l'histoire aujourd'hui.
Bien, ce matin, il y avait le ministre de l'Agriculture au micro de France Inter. On va prolonger en revenant en arrière.
Bonjour chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La fin des paysans.
Vous travaillez avec des paysans, mais votre arrière-grand-père aussi sans doute était paysan. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse autrement, puisqu'il n'y avait pas d'autre métier que le métier de paysan? C'était le seul métier indispensable.
L'originalité française passait par le pacte que la nation et l'État avaient passé avec les paysans. Propriétaires, petits et moyens, chefs de famille, élus municipaux et soldats, ils étaient le socle de la République. Ce pacte a été renouvelé dans les années 1960 qui vont nous occuper aujourd'hui. La transformation radicale qui s'accomplit alors dans les campagnes est en fait une coproduction du pouvoir politique et des organisations majoritaires de la profession. Au terme de cette révolution silencieuse, les résultats ne sont pas ceux qu'on préparait. Non seulement les exploitants agricoles ne sont plus que 450 000 peut-être, mais on ne sait même plus comment les nommer tant leurs choix divergent. Les uns se veulent d'abord entrepreneurs, les autres se revendiquent de nouveau paysans. Ainsi divisés, les agriculteurs sont en outre devenus très minoritaires dans la France rurale. Ils n'en contrôlent plus ni le durable accroissement démographique, ni les actuels soubresauts électoraux, lesquels prouvent que décidément, les équilibres anciens ne sont plus d'actualité. Il est temps que je salue l'invité de la marche de l'histoire. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour, Jean Lebrun.
Vous avez été élu il y a moins de deux semaines et avec un score de maréchal, j'allais dire. Pas 53-47.
Bon, en tout cas, acceptez qu'au moins aujourd'hui, je sois encore professeur d'histoire contemporaine.
Mais vous êtes
Lyon
président de quoi?
Je suis président de l'Université Lyon 2, voilà, depuis quelques jours.
Et vous dirigez ou dirigiez le laboratoire d'études rurales dont on peut dire, vous n'allez pas le contester, que c'est l'un des pôles français en la matière.
Merci.
Vous avez publié avec votre collègue Cornu, vous tenez avec lui un blog intitulé « La lampe tempête », un livre, c'est ce titre-là qu'on va retenir, « Nouvelles questions agraires » et aux éditions du Chêne, « Les gens de la terre et les gens de l'agriculture ». Passage de vocabulaire intéressant. Avant les années 60-62 et les grandes lois qu'on va évoquer de 60 et 62, donc le signal de la modernisation avait été lancé dans le monde agricole dès le lendemain de la guerre et dès le plan Marshall, par la soudaine multiplication des tracteurs. 400 000 tracteurs en 1956. Vous avez participé avec Gilles Pérès et Karine Bonjour à un film intitulé « 60 ans de révolution silencieuse ». On diffuse des archives de l'époque de la modernisation.
Merci, oui. Oui.
Tous les habitants d'Arlay attirés sur le pas de leurs portes sont là. Les nouveaux coopérateurs, les curieux, les amis, les filles, les gamins, un véritable succès, quelque chose comme une victoire. Sous le signe de la bonne humeur, de l'intérêt bien compris.
Je me suis emparé du tracteur et puis j'étais tellement heureux de monter sur cette mécanique, sur ce cheval de fer. C'était extraordinaire.
Je me souviens très bien que le premier tracteur était tellement peu fort qui n'arrivait pas à monter le tombereau que montaient les bœufs. Moi, j'avais 7 ans à l'époque, on l'a gardé qu'un an. Il a fallu le changer au bout d'un an pour qu'il fasse aussi bien qu'une paire de bœufs, quoi.
Et puis, mon pauvre père, qui n'était jamais monté sur une moto, sur une mécanique quelconque, et c'est moi qui lui ai appris à conduire.
Et le tracteur a trouvé du premier coup ses ennemis, les vieux, les coléreux, les envieux, ceux qui ont mal au choix de n'être pas les premiers dans leur village, ceux qui cherchent éternellement des querelles et qui ne craignent pas d'afficher en toutes circonstances l'étroitesse de leur esprit.
Oh, dépenser des sous, on allait se ruiner. C'était des idées de bœufs. Hein, dépenser tout l'argent, tout le pognon, non.
Voilà, puis après le tracteur, la batteuse, puis la moissonneuse-batteuse, et puis le remembrement parce qu'il faut faire passer les machines. Et vous avez entendu la reprise d'un film du ministère de l'Agriculture de 1947, dans celui de Karine Bonjour et de Gilles Pérez. Ce sont les jeunes qui sont porteurs.
Oui, je pense que de toute façon, on a quand même l'impression historique que les Trente Glorieuses, à leur début, sont une affaire de jeunes. Donc on a construit aussi, dans les mythes de la ruralité, une opposition de génération, considérant... Alors il est vrai qu'une bonne partie de la génération précédente s'était fortement compromise au moment du maréchal paysan, dans la corporation paysanne, mais ce n'est pas qu'une affaire de jeunes, c'est une affaire plutôt de génération, et une génération qui est multiple et qui peut s'étendre, bien évidemment, sur plusieurs dizaines d'années.
Les anciens, disait Pierre-Jacques Esselias, ils sont pas contre la modernisation du moment qu'ils n'ont pas emporté la responsabilité financière.
Voilà, c'est la responsabilité financière, c'est accepter. Mais là encore, on est souvent, me semble-t-il, dans des clichés, c'est-à-dire de présenter le paysan ou l'agriculteur comme étant méfiant, comme étant calculateur en tout, et fonctionnant, comme ça vient d'être dit dans cet extrait, sur la réputation de l'homme, du clan, de la famille, de la maisonnée par rapport aux autres. Et donc, c'est toujours de présenter le village comme un microcosme qui aurait ses propres règles et qui serait à peu près imperceptible de l'extérieur.
Oui, mais la modernisation et la mécanisation changent les
totalement,
règles.
Totalement.
Il faut du crédit, il faut des organismes de crédit, il faut toutes sortes d'organismes techniques pour introduire la chimie, les nouvelles mesures de qualité des terres, que sais-je. Et alors, ce sont les jeunes, par exemple ceux de la jeunesse agricole chrétienne, qui vont diriger, enlever les mouvements majoritaires de la profession, lesquels vont conduire la transformation.
Il y a effectivement dans la longue durée, parce que la JAC est créée en jeunesse agricole d'abord catholique, puis chrétienne au moment de Vatican II. Mais ce qui est important, c'est effectivement, on peut croire que c'est un mouvement de jeunes, mais que cette JAC se retrouve, en tout cas au moment de la libération, à faire des choix. Le retour aux affaires des corporatistes, entre autres, la reprise en main d'une structure de l'agricolisation par les vieux barons, entre guillemets, de la corporation et de l'entre-deux-guerres. Et puis, eux, un désir manifeste d'exister autrement, bien sûr, parce que les moyens de communication se sont largement développés, parce qu'on veut être jeune comme tout le monde. Et dès lors, on a, et c'est ça qui me semble nouer les choses, à la fois des revendications d'une bonne partie du secteur de l'agriculture, des demandes de la nation. Ces demandes de la nation, elles s'expriment, ne l'oublions pas, qu'il y a les pénuries alimentaires pendant la guerre et que l'après-guerre est encore une période de pénuries. L'étiquette d'alimentation, l'étiquette de rationnement demeure pendant de nombreuses années. Donc la reconstruction trouve aussi des acteurs, et y compris des acteurs politiques, et ce sera ce qui va se nouer progressivement, après quelques années d'hésitation où on a l'impression de retomber dans la Troisième République, des notables ruraux et autres. Il y a ce basculement avec un pacte, je ne veux pas le dater très précisément, il est quand même légèrement antérieur à l'arrivée d'Edgar Pisani, mais globalement, un pacte entre l'État, la profession qui est en train de s'organiser et qui s'organise sur des mouvements de jeunesse, au titre, avec un pari, à la fois nourrir le pays, mais surtout, parce que le pays est quand même à peu près autosuffisant depuis le début du XXe siècle, mais surtout de faire de cette agriculture une agriculture conquérante et économiquement conquérante, c'est-à-dire avec une ambition, puisque nous sommes en France dans les zones tempérées, avec des facteurs culturaux assez favorables, de faire de l'agriculture française une agriculture d'exportation.
En gardant la base de l'exploitation familiale.
Oui, absolument.
Ça fait partie du pacte que renouvelle donc l'arrivée au ministère de l'Agriculture en 1961 d'Edgar Pisani, qui est devenu une figure légendaire.
Ah, plus que légendaire et encore vivante.
Absolument. Et il dit, j'ai co-géré avec mes fils, c'était mes fils, les interlocuteurs paysans de la FNSEA et du CNJA. La JAC avait alimenté ces deux organisations tout à fait majoritaires à l'époque.
Et le CNJA avait pris d'assaut la FNSEA. Hein.
Tout est en ordre donc pour que les Trente Glorieuses bénéficient aux agriculteurs, avec la mise en musique les lois d'orientation de 1960, corrigées Pisani en 62, et la politique agricole commune qui va être initiée peu après dans le cadre du marché commun, ancêtre de l'Union européenne.
Monsieur Pisani recevait les leaders de toutes les organisations agricoles, coopération, syndicalisme, jeunes, aviculture, blé, élevage, concernés par le marché commun, afin de les informer officiellement des conclusions de Bruxelles.
Mes collaborateurs et moi-même, les experts de Bruxelles eux-mêmes, sont venus point par point sur le règlement riz, sur le règlement viande bovine, sur le règlement laitier, le règlement financier, sur le problème posé par la modification des règlements antérieurs en ce qui concerne l'aide à l'exportation vers les pays membres de la communauté en matière de volailles et de porcs. Enfin, sur la politique de la communauté à l'égard des marchés mondiaux, sur tous ces points, chacun d'entre nous a exposé le contenu de la négociation et a analysé les problèmes essentiels.
Bien précisément, le marché commun et surtout son intérêt pour l'agriculture française a été aujourd'hui le propos du rapporteur devant l'Assemblée nationale de la loi d'orientation agricole, M. Lebeau de la Morinière.
Le marché commun, ça va devenir maintenant votre affaire. Votre affaire et votre chance. On peut dire que vous êtes, dès maintenant, vous-même, par le truchement de vos organisations, eh bien vous êtes un petit peu responsable de sa réussite. Et vous devez, pour pouvoir le réussir, vous organiser de façon très courageuse en ce qui concerne la production et en ce qui concerne votre profession.
Alors la politique agricole commune va renforcer l'organisation de la profession, qui devient une sorte de parallèle de l'État. Mais il faudrait que vous nous disiez un mot des intentions de cette politique agricole. De Gaulle voulait que l'Allemagne ne soit pas leader européen, que la France lui dame le pion sur ce terrain.
Oui, c'est une longue histoire. On parle de marché commun et de politique agricole commune, de PAC. En fait, c'est d'abord 57, c'est le traité de Rome. J'ai l'habitude de dire, en caricaturant, que le traité de Rome, c'est d'abord un axe Paris-Bonn et non plus Berlin. Et Paris-Bonn, c'est, si on schématise à l'extrême, vous construisez des Volkswagen pour l'Europe et nous la nourrissons. Et derrière cette sorte d'accord, il y a une mise en ordre de la paysannerie française. Des organisations, même celles qui sont très revendicatrices à ce moment-là, se mettent dans cette modernité, jouent leur rôle et on réinvente quand même une des caractéristiques françaises du secteur. Le secteur agricole a toujours représenté une exception dans l'État et on continue, on le réactualise en inventant la cogestion. Il est quand même absolument extraordinaire que ce secteur de l'agriculture dispose de son propre enseignement supérieur, dispose de son propre enseignement. Enfin, et on a cet ensemble-là de dispositifs qui va œuvrer à fond, y compris depuis l'invention ou la réinvention de l'INRA pour les découvertes technologiques de la recherche agronomique.
Qui date d'après-guerre.
Et tout cela, c'est un dispositif qui va industrialiser en quelque sorte cette agriculture française, mais en respectant, et c'est là tout l'intérêt, non pas en faisant de très grandes exploitations à l'américaine, mais en gardant, et tout ça pour garder, si l'on veut quand même, le soutien de la gauche de ce pays qui est encore gauche bien vivante dans ces années.
En gardant déjà, le cadre familial.
En gardant le cadre familial que l'on invente ou que l'on réinvente.
Maintenant, on va faire, comme dirait Emmanuel Laurentin, qui publie chez Radio France et Bayard, la France et ses paysans, un peu d'anthropologie et voir comment le maintien du cadre familial comme lieu de ces transformations ne va pas pouvoir se faire sans une autre révolution silencieuse. Il parle de la décohabitation progressive des générations.
C'est la règle contre le père,
mais...
Non, mais ne veut plus vivre sous l'autorité du père et surtout sa femme. Et les enfants ne veulent plus être sous l'autorité du patriarche.
Jacques Sigal, notre réalisateur, a l'habitude de dire que les femmes sont dans l'agriculture des agents secrets de la modernité.
Alors, ces agents secrets de la modernité, oui, ce sont les absentes de l'histoire officielle. Je rappelle qu'il y a, il faut attendre Edith Cresson pour que les femmes aient un statut dans l'exploitation agricole. Avant, une femme est l'épouse de son mari, est l'épouse de l'agriculteur, fait le travail. On est souvent dans une division sexuée du travail. À l'homme, les gros travaux, à la femme, l'intérieur et la basse-cour. Tout cela bascule petit à petit. La femme, c'est aussi, ou les femmes, ce sont les opérations de comptabilité, les opérations de mise sur le marché. C'est aussi la tractoriste, sans jouer la tractoriste soviétique, mais on voit bien quand on regarde les publicités des tracteurs, comment les choses se passent. Et c'est cet ensemble-là, effectivement, qui permet de légitimer au moins oralement et peut-être politiquement cette fameuse exploitation familiale à deux unités de travail humain. Les deux UTH, c'est l'homme et la femme. Et on sait aujourd'hui, 10, 20 ans, 30 ans après, que ce qui apparaissait comme l'idéal de la, petite, la maison au fond de la prairie de la famille travaillant l'agriculture, on sait très bien que ça se finit aujourd'hui, généralement, par un homme seul, enfermé sur sa machine.
Je vous ai interrompu au moment où vous parliez des films et des représentations traditionnelles de la vie paysanne comme un invariant. C'est que je voulais vous faire entendre 5 colonnes à la une, 1960, ce qui est décrit ici, la vie quotidienne d'une paysanne du Morbihan, cela relève déjà d'un passé heureusement révolu.
Le matin, je me lève à 6h30, je porte le lait au camion, et puis après, je prépare le petit déjeuner, je fais la vaisselle, je fais le ménage, je prépare à grand-mère le repas pour après-midi, et après je donne aux poules, je donne aux lapins, et je fais les lits, et après je pars au champ, je reviens pour manger, l'après-midi je repars au champ après avoir fait la vaisselle, et le soir je reviens, je redonne aux poules et aux lapins, je prépare le dîner, et après je fais la vaisselle, ou bien il y a encore des choses à aider à mon frangin, regarder après les genisses, dans le parc, et après je peux me coucher.
Isabelle, debout. Eh ben oui. Oh, c'est effrayant, Dieu. Ouais. Bon Dieu, là le printemps qui s'amène, va falloir retourner aux gens, labourer, sargler toute la semaine, tout le monde aux gens jusqu'au coucher. Oh ouais, Dieu. Isabelle, faut que je ferme le cheval. Amène l'enclume. Isabelle, tiens bon le taureau. J'amène Blanchette. Isabelle, pousse un peu le tracteur. Je suis embourbé. Eh ben oui. Ouais, c'est feignant, Dieu. Ouais.
Feu, Risset, Barillet décrit ici un monde qui disparaît dans la révolution silencieuse des paysans. C'est notre thème aujourd'hui, dont nous avons présenté la justification dans les années 60 et dont nous allons toujours avec Jean-Luc Maillot voir maintenant les conséquences dans les années suivantes. Risset, Barillet, il est témoin d'un type de représentation du paysan invariant,
est,
façon Fernand Reynaud aussi.
Il en est, oui, je suis qu'un pauvre paysan. Ce qui est extraordinaire dans cette chanson, c'est qu'aujourd'hui elle fait frémir et pleurer, mais qu'elle faisait rire. Elle faisait rire dans les années 60. Elle faisait rire la ville, et une ville qui était aussi constitué d'enfants d'agriculteurs, d'enfants de la ruralité, de tous ceux qui ont participé à ces Trente Glorieuses et venus chercher le développement général pour être comme tout le monde dans la société.
Alors ça maintenant qu'on est plus tard...
Ça faisait rire les urbains.
Je vous propose de suivre les aventures de paysans transformés par la Révolution silencieuse, paysans de l'Aveyron, telles qu'elles sont racontées par Georges Rouquier dans son chef-d'œuvre de 1983, Bic Phare.
Oui, chef-d'œuvre, grand morceau entre Farbic et Bic Phare. Et
alors Farbic, il avait tourné dans le Rouergue au lendemain de la guerre.
Voilà, et puis retour sur les lieux du crime ou de la création, quelques temps après, les mêmes vieillis, les enfants devenus grands.
La métamorphose. Pradal, par exemple, célibataire, il est resté seul. Trop petit exploitant, annonce à sa famille qu'il va arrêter.
Écoutez, la dernière vente que je connais, c'était 60 000 hectares. À ce prix-là, comment voulez-vous qu'un jeune agriculteur puisse faire son partage de famille, s'agrandir, se moderniser, et surtout que, j'en ai peur, les prix ne vont pas s'arrêter là.
La parole est à Raoul Pradal.
Vous pouvez toujours parler du foncier, tant que vous voudrez. Il n'y a qu'une solution, et une seule. C'est que les communes, avec l'aide de l'État, deviennent propriétaires des terres cultivables. Il est lourd. Et nous, aux agriculteurs.
Mais il a raison. On sera tous fonctionnaires.
Si on les laisse faire, on ira bientôt tous travailler en kolkhoz.
Mais on n'est pas en Russie, ici.
Le droit de propriété est intangible en France.
Viens me les prendre, mes terres. Puis on verra.
Bordel, on est capable de foutre la révolution, nous.
Silence. Laissez parler notre ancien président.
Il faut que la location des terres disponibles soit donné à ceux qui en ont le plus de besoin. C'est ça la solidarité. Les jalousies, c'est fini. Il faut que vous pensiez tous à l'intérêt général. Parce que dans l'intérêt général, il y a l'intérêt de chacun.
Alors il dit ça l'ancien président du syndicat parce qu'il s'en va, qu'il va devenir jardinier à Toulouse. Et pour la vente de ces terres, il y a deux choix. Ou bien celui un peu utopique qu'il dessine, là, mais c'est pour un avenir très incertain. Ou bien alors, c'est la négociation familiale. Alors l'entreprise familiale, c'est moins rationnel qu'une entreprise de simples ingénieurs. Et tout le film va être construit sur cette question. Farbic, la ferme des cousins, va-t-elle pouvoir racheter Bic Phare,
la ferme de Raoul. C'est l'histoire, c'est un concentré d'histoire, bien sûr. Fondement réel, fondement de représentation pédagogique, fortement humaniste. Mais on voit bien qu'à travers ces acteurs, ces paysans authentiquement acteurs, mais qui doivent ensuite effectivement redire les textes
qu'ils ont eux-mêmes produits.
Et voilà. Donc on est dans une co-construction en quelque sorte. Mais ce qui me semble le plus important, c'est ce qui traverse cette société. C'est-à-dire que parler de collectivisation, c'est-à-dire de développer l'enjeu foncier, n'oublions pas qu'il y a eu réactivation des lois sur le remembrement. Que le remembrement est vécu pour tous ceux qui sont légèrement marginaux, tous ceux qui ne sont pas dans le mouvement, comme une authentique spoliation. N'oublions pas non plus que la question du foncier est une question importante qui se pose. Alors, on peut le poser en termes de qui possède les moyens de production. Et on voit bien que tout cela est éminemment politique, puisque même dans ce discours, c'est tout de suite « Ah, oh là là, si l'État ou si la commune s'en mêle, on arrivera au kolkhoz ou au sovkhoz. » Dans les programmes politiques aujourd'hui, notamment d'un des deux candidats, on est dans cette question-là, sur le programme culturel et agricole, pose la question de rassembler ces petits. Est-ce qu'il ne faut pas regarder des associations d'exploitation à une échelle plus large? Et ici, on se retrouve avec une véritable mise en scène, bien évidemment, mais qui nie une chose importante. C'est que ce développement voulu dans le pacte national, ce développement, c'est celui de l'élimination des plus petits, des moins productifs, parce qu'il faut grossir.
On a accepté que les petits partent. On a dit que c'était les moyens qui allaient s'agrandir.
Les vieux, voilà.
Edgar Parisi-Pisani disait le modèle, c'est 50-60 hectares qui permettent de nourrir la planète et de produire de l'emploi agricole. Et moralité, les gros dont on ne parlait pas, ont fini par prendre le pouvoir,
Même à la FNSEA, les gros et les moyens qui ont mangé aussi les petits.
Alors, on a peut-être maintenant, 30 ou 40 ans après cette révolution silencieuse, je simplifie, une polarisation D'un côté, premier pôle, l'agriculture productiviste. Dans Big Far, on voit le jeune cousin élever des vaches et puis une femme de sa famille dire « Mais les vaches n'ont même plus le temps de faire l'amour. Quant au porc !»
C'est la première porcherie automatique implantée en France sous licence américaine. Et elle fonctionne automatiquement. À l'entrée de la porcherie, vous avez deux silos à aliments. Une alimentation pour les petits porcs qui se fait dans des augettes et une alimentation pour les plus gros porcs qui se fait par des balancelles et l'alimentation se faisant au sol, sur un sol isolé par un revêtement spécial de polyester.
Bon, vous avez justement des installations au sol qui permettent un nettoyage très facile.
Oui, vous avez des grilles d'éjection qui sont formées par des canaux latéraux et reliées par des gaines de ventilation.
Et combien d'années vous faut-il pour élever un porc ?
Oh, il ne nous faut pas une année pour élever un porc. Nous comptons 4 mois pour élever un porc qui est entré en porcherie de 25 à 30 kilos et pour en sortir à 100 à 110 kilos.
Bon, la journaliste en 1960 au journal télévisé n'est pas tout à fait informée du temps d'élevage du porc. Alors, cette agriculture polarisée est productiviste. Elle est sous dépendance des industries agroalimentaires. Elle est protégée par les choix laborieux de Bruxelles. Elle dépend aussi des hasards instantanés, des bourses de matières premières. On pourrait citer
déjà
Genève, par exemple.
Déjà, sur le porc, je me permets juste de préciser qu'on vient de rééditer en DVD « Cochons qui sont dédits ». Pour vos éditeurs qui ont le cœur bien accroché, ça vaut le coup de se faire remuer un petit peu, là encore, sur cette modernisation vers le productivisme.
Mais cette agriculture productiviste, elle prolonge aussi quand même la vocation rurale de la France. Le ministre de l'Agriculture actuel a l'habitude de dire que le commerce extérieur du pays se porte mal, mais qu'un certain nombre de filières bien choisies de l'agriculture productiviste, elles, sont en hausse.
Exactement, ça a été l'objet du marché commun et puis ensuite de la rivalité à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on est dans un contexte plus large qui est celui de la mondialisation et ce n'est pas une petite affaire auquel certains répondent par le droit des pays ou des peuples à se nourrir eux-mêmes. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité qu'il convient de regarder. Tout en conservant, bien sûr, les capacités de production locale ici.
Deuxième pôle, je fais simple parce qu'il y a beaucoup de positions intermédiaires qu'on pourrait résumer sous le nom d'agriculture raisonnée, c'est, deuxième pôle, l'agriculture de circuit court, que à Big Far, on va découvrir. Georges Rouquier, en 1983 déjà, avait des positions très écologistes dans la famille du jeune cousin, là où les vaches n'ont pas le temps de faire l'amour. Voilà qu'un accident tire le signal d'alarme. Le jeune cousin en question doit s'aliter, il faut appeler le médecin d'urgence.
Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?
C'est insecticide.
Sans masque ni gants, hein ?
Naturellement.
Mais bon Dieu, vous ne savez pas que c'est du poison que vous maniez, là ?
Docteur, c'est grave.
Évidemment, c'est grave, mais on le tirera de là. Pour le moment, il n'a rien d'autre à faire que de se mettre sous la douche. Il faut le savonner, le rincer pendant au moins 20 minutes. Tout le corps. Allez, allez.
Alors, Rouquier recommandait déjà, il y a 25 ans, circuit court.
Alors, circuit court, c'est une méthode de mise sur le marché qui s'est développée aujourd'hui en inventant, et vous savez qu'il y a un seul modèle marque déposée, donc les fameuses AMAP, c'est moyen donc de distribution avec une clientèle consentante, fidèle à un même producteur, bien évidemment. Il n'y a d'autres formes de circuits courts. Mais c'est essayer effectivement pour échapper aux intermédiaires, à la grande distribution, de créer des niches, en quelque sorte, de distribution. En amont des circuits courts, ce sont des groupements d'exploitants qui décident, bien sûr, d'être compétitifs, non pas dans la quantité, mais dans la qualité. Donc c'est pourquoi il y a souvent une forme de repérage, en tout cas de publicité ou de publicisation sur la garantie du produit, notamment le produit bio. Mais ce ne sont pas les seules niches actuellement en cours.
Mais ces gens qui pratiquent en tant que néo-paysans, les circuits courts, ils vont avoir des relations très étroites avec un certain nombre d'abonnés, de
Absolument,
citadins
oui.
qui partagent les mêmes conceptions qu'eux, économie sociale et solidaire. et plus du tout de contact avec les agriculteurs des autres pôles qui sont comme des ennemis. Ça contribue à cet éclatement général du monde rural qu'on a constaté à l'issue du premier tour des élections présidentielles.
C'est assez compliqué, dans la mesure où d'abord, même l'agriculteur productiviste ne réside pas forcément sur place. Dans les très grandes exploitations, on a aussi de la résidence urbaine et on va travailler sur le champ, on récupère le matériel, on est seul dans ces grosses machines qui de plus en plus d'ailleurs peuvent être à peu près guidées par radar et autres. Donc le monde agricole change. Il y a encore une agriculture de peuplement, c'est-à-dire ceux qui vivent sur place, même si culturellement ils commencent enfin à échapper aux caractéristiques dans lesquelles on a voulu enfermer le monde de la production agricole. C'est-à-dire que ces gens, ces producteurs, et pas seulement les altères, comme on a tendance à le dire, sont des gens comme vous et moi. Ils écoutent France Inter. Je pense qu'ils écoutent La Marche de l'Histoire. Mais je les connais. C'est-à-dire qu'on est bien dans ce monde qui est complètement perturbé, qui est à l'image de l'ensemble de la société et pour lesquels les grandes lignes de clivage de la société se retrouvent.
Merci Jean-Luc Maillot. Demain, ils écouteront une émission sur Karl Marx qui n'avait pas beaucoup de considération pour les paysans de France.
C'est vrai.
On prend les paysans pour des ploucs. Alors, si vous saviez qu'ils en connaissent des trucs.
L'émission était réalisée par Jacques Sigal, préparée par Camille Poux Jalaguier, un nom de l'Aveyron, comme Rouquier, Franck Olivard, Frédéric Martin, la technique Pauline Laverdure et Michel Bézikian. Tout à l'heure, Mathieu Vidard a beaucoup d'audace, il compte nous parler du corps exposé au soleil. Mais d'abord les informations, il est 14h, vous écoutez France Inter.